Bien le bonjour dans l'hebdo des lycéens, ce rendez-vous qui nous permet chaque vendredi de retrouver une synthèse de l'actualité telle qu'elle a été vécue, ressentie pendant cette semaine par les lycéens de la cité scolaire Paul Scarron, en l'occurrence ici des élèves de Terminale L qui se sont penchés sur ce dont on a parlé beaucoup dans les médias pendant cette période, et on le sait, c'est toujours assez inattendu car ce ne sont pas forcément les sujets qui ont été le plus choyés par nos grands médias nationaux que nous retrouvons forcément dans le cadre de cet hebdo des lycéens. Nous avons avec nous Antoine, Audrey, Justine, Lise, Laurine, Stéphanie, Pierre, la fine fleur de la jeunesse, Lucille, Guillaume. Et nous allons tout de suite partir avec une première actu. Alors là, ça va être moins drôle, on va le mettre un peu plus dans le ton. Antoine, tu veux nous parler de la maladie d'Alzheimer?
Oui, alors des chercheurs américains ont fait une découverte de taille qui pourra changer la vie des malades atteints d'Alzheimer. Selon une étude, cette maladie qui touche 36 millions de personnes dans le monde se propage dans le cerveau comme une infection de neurone en neurone. Si on bloque la protéine qui détruit peu à peu les cellules nerveuses, la maladie pourrait être stoppée. Les médecins pourront identifier et traiter l'Alzheimer dès les premiers signes, mais cela nécessite des nouveaux investissements médicaux capables de discerner cette protéine.
Antoine, tu es jeune, je veux dire, la maladie d'Alzheimer, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait te préoccuper. Pourquoi, toi, ça te préoccupe ?
Quand j'ai vu les chiffres en France, qu'il y avait 800 000 personnes atteintes de cette maladie-là, ça m'a un peu choqué.
Est-ce que tu connais dans ta proximité, dans ta famille, des personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ?
Des proches, mais pas forcément de la famille.
Pas forcément de la famille. On le sait, c'est une maladie qui pose de vrais problèmes. On n'arrive pas à la soigner pour l'instant ?
Pour l'instant, non. Ça fait 25 ans et là, il y a peut-être une amélioration,
peut-être
avec
un espoir, voilà.
Avec cette recherche.
Voilà, ce qui fait que finalement, c'est autour de l'accompagnement que les grands efforts sont faits par les États et collectivités, etc. Donc, maladie d'Alzheimer, peut-être un peu d'espoir. Audrey, toi, c'est du autour du sida que tu as choisi une actualité de cette semaine. Audrey.
Oui, alors, à Johannesburg, 20% des adultes sont séropositifs. Pour éviter que ce chiffre n'augmente, on a mis en place des cliniques où les hommes peuvent venir se faire circoncire. Cette pratique diminue de 76% le risque de transmission du sida lors d'un rapport sexuel avec une femme séropositive. Mais cela ne protège que l'homme, malgré que la circoncision diminue aussi le risque de transmission à la femme de papillomavirus, à l'origine du cancer du col de l'utérus. Dans cette région d'Afrique, le pourcentage de séropositivité a diminué de 25% en 4 ans. Plusieurs pays ont donc lancé des programmes de circoncision massive. 1 million d'hommes ont déjà été circoncis sur 20 millions qui doivent l'être.
Alors c'est un sujet grave, hein, très grave, que la question du sida en Afrique. Ça paraît un peu curieux quand même, cette histoire de la circoncision qui pourrait faire reculer le pourcentage de...
Moi aussi ça m'a paru curieux, c'est pour ça que j'ai pris le sujet d'ailleurs. Mais j'ai lu en détail, j'ai pas trop compris comment ils font, mais j'ai compris le truc, mais je comprends pas comment.
Le lien qu'il peut y avoir.
Oui,
c'est vrai que ça paraît a priori assez étonnant. Hein. On peut rappeler que la circoncision est une pratique religieuse pratiquée principalement dans la religion juive, hein, bien sûr. Donc, ça paraît quelque chose d'assez étonnant. Enfin bon, si c'est vrai.
C'est une bonne chose.
Oui. À voir. Mais c'est vrai que c'est le genre d'info devant laquelle on reste toujours un peu sceptique. Donc, merci de nous l'avoir amené. On remonte par chez nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps n'est pas des meilleurs actuellement. Et Justine, toujours préoccupée des questions sociales, s'est penchée sur les effets du froid.
Oui, donc le froid est arrivé avec la neige en début de semaine, causant des températures négatives dans un grand nombre de départements français. Sous l'effet du froid, un vaste plan d'hébergement d'urgence est mis en place pour les sans-abri par des associations telles que la Fondation L'Abbé Pierre. 25 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes en Sarthe. Les travailleurs sociaux du 115, donc du numéro d'urgence, ont déclaré qu'aucune demande d'hébergement n'a été refusée pour le moment, mais les locaux sont déjà complets en cette fin de semaine. Les policiers, quant à eux, patrouillent sur les voies publiques dans le but de repérer certains sans-abri pour leur proposer l'hébergement. En plein hiver, le manque de logement est un vrai problème qui se fait bien ressentir, puisqu'en Europe de l'Est, par exemple, de nombreux sans-abri sont déjà morts de froid cette année. L'hébergement n'est pas obligatoire, mais certains sans-abri de longue date préfèrent rester dans la rue pour des raisons personnelles.
Alors, oui, c'est un sujet qui revient chaque année, à savoir qu'est-ce qui est le moins pire. En gros, c'est ça, le moins pire en période de froid pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un domicile permanent. Est-ce que tu crois que des pays comme les nôtres pourraient se donner les moyens d'endiguer complètement ce phénomène croissant donc de SDF, de gens qui sont condamnés à dormir dans la rue?
Bah oui, parce qu'on a plusieurs logements qui sont inhabités. Enfin, on a des moyens de vraiment de loger les gens. Puis ça reste, c'est quelque chose qui est inscrit quand même dans la Déclaration des droits de l'homme, que chacun a droit au moins à une immunité, à une indemnité pour pouvoir se loger. Au moins ça, et c'est quelque chose qui est pas respecté. Donc,
chacun doit avoir droit à un logement décent qui le protège. Oui, tout à fait. Tu serais pour des réquisitions pures et simples, c'est-à-dire obliger les gens à mettre leur logement à disposition de, alors pas forcément des SDF d'ailleurs, hein, de façon plus générale, des gens qui sont en recherche de logement, car il y a une vraie crise du logement actuellement en France.
Oui. Non, pas forcément réquisition, mais qu'on arrête de mettre des prix astronomiques ou des logements qui servent à rien, enfin qui sont inhabités depuis des années, qui sont pas forcément en bon état. Faudrait pas demander non plus une rénovation, parce que là ça peut coûter cher, mais voilà, faire un effort vraiment pour faciliter l'acquisition d'un logement, je pense.
Voilà, un effort donc qui devrait être fait du côté des collectivités. Individuellement, j'ai envie de te poser la question, parce qu'à chaque fois que je vois les images, je me pose toujours la question, est-ce que moi je pourrais faire ça, quand je vois des gens qui bénévolement vont faire ce qu'on appelle les maraudes, qui vont la nuit rencontrer les SDF pour essayer de leur expliquer qu'il faudrait les mettre à l'abri, essayer tout simplement de les trouver, les réconforter, etc. Est-ce que toi, tu te vois comme ça tourner la nuit
Oui, moi, si, je pense pas avoir l'âge requis pour le faire, mais
ouais,
si je pouvais, je le ferais. Après, faut savoir bien réagir face aux gens qui ne veulent pas venir se mettre au chaud alors qu'il y a un froid vraiment mordant dehors. Faut comprendre ces gens-là qui veulent rester dehors, qui sont là dehors depuis longtemps, qui ont leur marque. Puis il y a aussi, je pense, une certaine gêne à demander de l'aide. C'est pas toujours facile.
En tout cas, ce qu'on apprécie dans la façon dont tu traites ce sujet, c'est le respect que tu as, que tu exprimes par rapport aux gens qui sont en situation difficile. Mmh. Et ça, c'est une valeur effectivement importante dans le lien social. Justement, parlant de liens, pour des sauces en général, on utilise de la farine, mais la farine ne sert pas qu'à ça, n'est-ce pas, Lise?
Oui, on va parler d'un Hollande enfariné. Mercredi.
C'est pas le fromage.
Non, pas du tout, non.
L'autre pays de. Bon, enfin des sujets plus légers, parce que je sais pas si vous avez. Enfin, les plus légers, ça dépend, mais. Parce que je sais pas si vous avez regardé, mais depuis le début, quand même, on est sur des sujets graves.
Hein. Alors. Tout à fait. Mercredi, lors d'une de ses apparitions, le candidat du Parti Socialiste a subi une agression. En effet, une femme a fait éruption sur l'estrade et l'asperge de farine. François Hollande, qui reste de marbre, ne fait rien. Elle est ensuite plaquée au sol par des agents de sécurité et emmenée à l'écart. On réalisera plus tard qu'elle avait des problèmes de santé mentaux. Elle est actuellement internée dans un hôpital psychiatrique. Le candidat a réagi avec calme et n'a pas bougé, mais cela aurait pu être de l'acide, par exemple. Ici, cela aurait été plus grave. Mais en définitive, comme l'a dit un des gardes du corps de Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti de gauche, qui est également professeur agrégé de philosophie et possédant un très bon niveau de karaté, je pense qu'il est dommage de s'arrêter exclusivement sur la dimension de sécurité des candidats au lieu de retenir les positions sur le logement dont il était question, par exemple. Le professeur garde du corps qualifie cela d'un écran de fumée médiatique. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
On l'avait compris. Rien que dans le ton, ça paraissait évident. Est-ce que le fait d'enfariner ou il y a eu un moment entartré des gens comme ça, tu trouves ça quoi? Tu trouves ça détestable, drôle?
Bah vu qu'elle avait des problèmes mentaux, ça peut paraître triste plutôt pour elle.
De toute façon, en général, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand il se passe quelque chose et qu'un homme politique est attaqué par quelqu'un du peuple, en général, c'est quelqu'un qui était un peu déséquilibré.
Oui, oui, voilà. C'est vrai. Oui.
Par contre, jamais hein, les hommes politiques. Hein, jamais. Hein. Non, je plaisante, bien sûr. Hein. Donc, François Hollande est resté très, très, très placide. Est-ce que tu sais s'il y a une plainte de déposer
Je crois pas, non. Non, il n'y a pas eu de plainte.
Eh ben moi je crois que si. Hein. Je crois que c'est une info à vérifier. Hein. Mais souvent plainte est déposée parce que le problème c'est de pas banaliser le fait quoi. Hein. Donc mais enfin je sais pas, peut-être qu'il va retirer, s'il a déposé une plainte peut-être qu'il va retirer. Enfin on va se renseigner là-dessus. On ne sait pas. Et quand on est journaliste et qu'on ne sait pas, eh bien je vais pas dire ce qu'on dit d'habitude, mais je vais dire on passe à un autre sujet.
Tout à fait.
Voilà. Et donc l'autre sujet qui va nous intéresser c'est le football. Laurine.
Oui, mercredi 1er février a eu lieu en Égypte un match de foot du championnat national affrontant Al-Masri et Al-Ahli, un des meilleurs clubs d'Égypte. Mais comme quoi les meilleurs sont pas toujours les mêmes, puisqu'ils ont perdu face à l'équipe d'Al-Masri. Cette défaite elle a donc provoqué d'énormes violences puisque 74 personnes ont été tuées et il y aurait un millier de blessés. Le championnat il est donc suspendu.
Bon, alors, c'est quoi là qui est intéressant? C'est le fait que ce soit en Égypte? C'est le fait que tu veux nous faire l'apologie des supporters de football
Disons que pour une défaite, ça fait beaucoup de blessés. Enfin, je comprends pas comment, juste pour une défaite, il peut avoir des morts, des blessés.
Est-ce qu'on sait, est-ce que toi tu sais, ou autour de la table, est-ce qu'on sait ce qui a lancé réellement ces agressions, la source, l'origine? Est-ce que c'est uniquement la défaite ou est-ce qu'il y a autre chose derrière?
La rumeur court que ce serait Hosni Moubarak, l'ancien président, qui aurait peut-être lancé
Enfin, pas Hosni Moubarak lui-même, mais c'est ça. Que ce serait un coup de déstabilisation. Ça paraît assez peu crédible, mais il n'empêche qu'on voit que ce drame, parce qu'il y a quand même plus de 70 personnes qui sont touchées, ce drame a quand même pris maintenant une dimension à caractère purement politique. Quoi. Le football, tu penses que c'est un sport sain? En tout cas, vu du point de vue des supporters.
Je sais pas du tout.
Est-ce que toi, tu suis le football?
Ah non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce que ça m'intéresse pas forcément. Et puis, c'est toujours les mêmes scénarios, quoi. Enfin, il y a toujours des incidents. Puis disons que dans des matchs, il n'y a pas forcément d'action. Voir des joueurs courir après un ballon, ça va.
J'ai cru comprendre lors d'une émission précédente que tu préférais le rugby.
Mais non, enfin, je ne suis pas forcément en sport. Mais disons que le rugby...
Ah non, surtout pas de sport.
Non.
Préservez-nous de toute activité sportive. Quelle horreur.
Mais non, enfin, c'est plus intéressant le rugby. Il y a une meilleure ambiance que le foot. C'est plus...
Bah Laurine, tu fais quoi comme sport, toi?
De la danse.
Mon Dieu, elle fait de la danse. C'est un sport, la danse, ou c'est artistique?
Enfin, moi, c'est artistique à la base. Mais moi, c'est plus...
Le public pense aussi que c'est artistique, ce que tu fais, non? Aïe.
Il n'y a pas de public.
Il n'y a pas de public. Bon, eh ben, tu auras à nous reparler de ce truc énigmatique une autre fois. Restons dans le domaine des loisirs, et des loisirs détournés avec des connotations politiques derrière, avec cette histoire de drame qui s'est déroulée à Port Saïd, en Égypte. Millennium a des soucis en Inde, Stéphanie?
Oui, alors le film Millennium, réalisé par David Fincher, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, et l'adaptation de la trilogie de l'auteur suédois Larsson, ne sera pas diffusé dans les salles de cinéma indiennes. En effet, le comité central de validation des films en Inde a jugé le film violent et choquant à cause de scènes nues, en fait. Le comité a tenu à préciser que les fesses et les seins nus ne sont pas autorisés en Inde. C'est pourquoi ce même comité...
À l'écran.
Oui, à l'écran. Oui, oui. Donc ce même comité a demandé de flouter ou bien de carrément censurer ces scènes. Mais le distributeur du film a refusé et de modifier certaines scènes du film qui a déjà rapporté près de 185 millions de dollars dans le monde. Il faut tout de même savoir que plus de 1700 films étrangers sont diffusés chaque année en Inde après avoir subi les tests de validation de l'organisme de contrôle.
Tu en penses quoi, toi, de cette censure? On peut parler de censure?
Moi, je trouve ça peut-être un peu abusif parce que bon, les quatre scènes en fait qui dérangeaient, c'était il y avait trois scènes d'amour dont une entre lesbienne et.
Toi, tu es mordu de Millennium, c'est pas ça, non?
Non, non, mais j'ai pas encore lu.
Tu as pas lu le livre?
Non.
Hein? Non. D'accord. Alors oui, donc je te laisse poursuivre, oui.
Et l'autre scène qui dérangeait, c'était une scène de viol. Mais enfin, oui, je trouve ça peut-être un peu abusif parce que bon, maintenant, dans la majorité des films qui sortent, on a toujours une scène dénudée. Donc c'est maintenant, c'est un peu commun, on va dire, dans les films.
Ouais. Donc ça te paraît choquant finalement que dans un pays on ampute une œuvre d'art.
Oui, mais après c'est peut-être aussi des questions religieuses ou ce genre de choses parce que bon c'est pas du tout pareil qu'en France quoi.
D'accord. Donc c'est toujours un problème hein, l'histoire de la censure et de l'acceptation du sexe. N'oublions pas quand même que l'Inde est le premier producteur de films au monde. Hein, Bollywood, bon, c'est des productions qui sortent régulièrement, qui viennent pas jusqu'à nous, mais pareil où on est toujours assez prude évidemment dans ces films. On va rester d'ailleurs en Asie, puisque c'est la Chine qui va nous intéresser. Enfin, est-ce que c'est la Chine qui va nous intéresser ou est-ce que c'est nous? Je ne sais pas. Pierre, explique-nous.
Ah. Donc, hier, jeudi 2 février, Angela Merkel a rencontré à Pékin le Premier ministre chinois Wen Jiabao. La chancelière allemande voulait convaincre la Chine d'aider financièrement l'Europe à rembourser sa dette et que cela était une opération sûre. Inquiet du tassement de ses exportations, Wen Jiabao considère que c'est urgent de mettre un terme à la crise de la dette en Europe. Bien que l'État chinois n'ait officiellement annoncé aucun chiffre, un économiste de la Banque centrale chinoise, Li Daoqi, aurait évoqué un montant de 1 200 milliards de dollars de participation au remboursement de la dette. Sur les 3 200 milliards de dollars de change que possède la Chine, rappelons que 550 milliards correspondent à des obligations d'État que la Chine doit à l'Europe.
Alors c'est un sujet technique, très technique. On n'a pas forcément d'ailleurs bien saisi au passage tous les chiffres, mais on voit qu'il s'agit de chiffres de grande ampleur. On va pouvoir en discuter tous ensemble d'ailleurs de ce sujet pendant quelques instants. C'est quoi le problème, la question qu'il y a derrière cette actualité-là?
Ben, en fait, le problème qui se pose, c'est que donc si la Chine donc aide l'Europe à financer sa dette, c'est que donc après ben, l'Europe du coup sera devra des reconnaissances à la Chine, enfin elle aura des obligations elle aussi.
Et ça te paraît un problème ou?
Ben disons que ce phénomène justement que certains pays soient dépendants d'autres parce qu'ils les financent, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, donc notamment avec les États-Unis. Enfin, rappelons d'ailleurs que la dette des États-Unis qui est la plus importante au monde est elle aussi financée par la Chine.
Absolument. Mais, ouais.
Et donc voilà. Enfin, je veux dire, si un pays est dépendant d'un autre pour ce qui concerne les finances. Ce pays peut pas être indépendant.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, rapidement, de cette question de comment se sortir de la dette, qui peut aider, les conséquences que ça peut avoir? Qui va intervenir sur ce sujet-là?
Moi, je trouve que la Chine, sur ce point-là, devrait rester chez elle. Parce que je sais pas, si l'Europe et les États-Unis sont gérés aussi par la Chine, il va plus rester. Enfin, beaucoup de... C'est les pays de la triade, enfin, c'est dans le même coin.
Ouais.
Donc, les plus grands du monde sont gérés par le plus grand, en fait. Mais il va plus rester beaucoup de...
Ceci dit, on peut quand même rappeler qu'il y a quelques siècles ou quelques dizaines d'années, tout simplement, l'ensemble des pays européens étaient installés tranquillement en Chine. Il y avait des concessions. Ils faisaient l'appui et le beau temps sur le gouvernement chinois. Toute l'économie était à leur service. On a connu aussi ces situations-là, mais on était dans la politique du colonialisme ou de l'impérialisme des pays occidentaux. Ça te paraissait moral ou pas déjà à cette époque-là?
Non, justement, c'était déjà pas bien à l'époque. Alors aujourd'hui, ça sert. Enfin, c'est pas une politique de colonialisme aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont racheté des temples ou des choses comme ça en Grèce, des plages aussi pour essayer de les remonter. Je trouve que ça appartient d'abord à la Grèce, même si ça peut les aider dans leur crise, ce n'a pas l'air de marcher pour le moment d'ailleurs. Je trouve que c'est leur patrimoine propre. Bon, c'était déjà pas bien à l'époque, mais maintenant c'est toujours pas bien, quoi, je trouve.
Donc la Chine, elle a d'énormes réserves financières, hein, c'est vraiment important. On peut aussi se poser la question de savoir sur ce pays à qui profite finalement le boom économique. Mmh. Attention, il y a aussi, faut pas l'oublier, des gens très pauvres, hein, très très pauvres en Chine. C'est le pays au monde, je crois, où il y a le plus gros écart entre la plus grosse fortune et les gens qui sont dans
c'est
la,
ça qui est un
dans
peu
la plus grande misère.
Pas paradoxal, parce que ils essayent de financer les dettes de l'Europe et des États-Unis, alors que dans leur propre pays, il y a déjà des problèmes qu'ils pourraient régler peut-être avec cet argent-là.
Ouais, ça m'amène une petite question qu'on n'a pas traitée ici, mais qui est un petit peu dans ce lien entre l'Occident, l'Orient et les problèmes économiques. On a parlé du Rafale qui allait peut-être enfin être vendu, c'est pas joué, hein, mais qui allait peut-être enfin être vendu, mais que une bonne partie du travail serait fait en Inde directement, le montage, donc il y aurait un transfert de technologie vers l'Inde principalement. Ça vous paraît une bonne chose de vendre des Rafales dans ces conditions-là ou pas? Le fait de ne pas les produire forcément chez nous, Pierre?
Ben, peut-être que la situation, ça devient assez inquiétant parce que s'il y a un conflit en fait entre deux puissances, d'un côté les Occidentaux et puis de l'autre côté les Chinois, et dans ce contexte de tension un peu économique, si on commence à vendre des armes, ça peut mal tourner.
Ouais, c'est peut-être pas tant les armes que de vendre nos technologies. Je vais vous donner juste un petit exemple, si vous me le permettez, un petit moment d'expression là. J'ai vu en Chine des zones de culture de la vigne où vous avez des plants de vigne sur des champs qui ressemblent en gros aux champs de blé de la Beauce, pour vous donner un ordre de grandeur. Rien à voir avec le petit carré de vigne qu'on peut avoir dans nos plus beaux terroirs. Et on fait ce qu'on appelle du transfert de technologie, c'est-à-dire qu'on envoie des gens pour former aux activités viticoles. Et ce qu'on peut se dire, c'est que le jour où les Chinois qui cultivent cette vigne seront au point comme chez nous, qu'ils pourront donc fabriquer peut-être un vin de qualité comparable au nôtre, vu la quantité que eux peuvent produire, ils vont tuer le marché, puisque finalement, avec la quantité, ils pourront être largement en dessous des coûts de nos vins, et ça risque de tuer une partie de nos vins. Donc c'est le transfert de technologie, c'est bien, on est dans la mondialisation, on est dans les échanges, c'est vrai qu'il faut travailler entre peuples, entre économies, etc. Mais bon, faut se poser la question à un moment. Voilà. Alors pour l'avion, est-ce qu'un jour, finalement, c'est pas les Indiens, après avoir tout étudié, qui vont eux-mêmes monter leur propre avion inspiré des Rafales, pour peut-être les vendre aussi sur d'autres pays? C'est un peu ça le problème du transfert, hein, donc. Et alors, ce que tu as dénoncé, c'est l'histoire de la Chine, donc la Chine qui, en mettant son argent en Europe, s'achète en gros le regard que Clément de l'Europe a à son égard.
Oui, ouais, c'est ça.
Il y a un problème particulier quand même par rapport à la Chine, où on aimerait qu'elle fasse des efforts sur quelque chose, non? Côté des droits de l'homme, par exemple, ou...
Bah oui, donc il reste pas mal de choses à changer de ce côté-là. Enfin, je veux dire, la Chine, il y a d'énormes problèmes justement avec les pauvres, l'immense majorité de personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et
puis la liberté d'expression.
Même au sein des entreprises, ouais, aussi. Oui.
Donc en gros, ce que tu crains, si j'essaye de résumer, parce qu'on va arriver au terme, en gros, c'est que s'ils mettent de l'argent chez nous, on va leur devoir finalement quelque chose, quelque chose. Ben, ça pourrait être aussi un peu de silence par rapport à ce qui ne marche pas trop chez eux, quoi. Et je pense que ça, effectivement, ça les intéresse. Pas simple, la mondialisation, pas simple, hein. Enfin, en tout cas, c'était bien d'avoir soulevé ce sujet. Nous avons parlé dans ce journal de la maladie d'Alzheimer, du sida, de la circoncision, des effets du froid des mesures qui s'imposent par rapport au logement, de Hollande qui a été enfarinée, de l'horreur des dizaines de morts suite au match de foot en Égypte. Millennium censuré en Inde à cause d'images qui ont été jugées, on va le dire, pornographiques du côté indien. Et puis on a abordé ce sujet complexe de la dette avec la Chine. C'est là-dessus que nous allons donc refermer cette hebdo des lycéens, dans lequel ont témoigné Antoine, Audrey, Justine, Lise, Laurine, Stéphanie et Pierre. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.